Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, épisode de début septembre, mi-septembre 2016. Je suis Patrick Béja et le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de consoles, de mobiles, de PC, de tout ce qui a trait à l'industrie. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans un épisode où on va avoir plein de trucs intéressants sur Sony et Nintendo dont il va falloir discuter, j'ai un spécialiste de tous les sujets du jeu vidéo du monde, à savoir Monsieur Daniel Charby. Comment allez-vous, Monsieur Charby, aujourd'hui ?
Hello ! Bah écoute, très bien, ça fait super plaisir de te parler à nouveau. Allez, en quoi ? C'est le deuxième podcast en 2 semaines ?
Ouais, même pas, en 10 jours, ouais.
En 10 jours, il y a beaucoup de gens qui vont hurler en disant qu'ils m'entendent trop souvent, mais sinon c'est pas grave,
non,
tout va bien.
Ta voix suave est toujours un plaisir, Dani.
On disait
que si jamais ce podcast avait un problème et n'enregistrait pas, je pouvais reproduire la mienne et la voix de Dani pour refaire l'émission. Et mon imitation de Dani, en fait, c'était « Ouais, la PlayStation, c'est trop de la merde !» Je sais pas si c'est très...
Ouais, non, mais tu me connais bien, hein, depuis le
oui,
temps, de toute
ça.
Façon, hein, je pense que tu saurais me dupliquer sans aucun problème. Hein,
tu mascarades ta vraie nature quand tu dois faire des trucs sérieux. Donc, bah écoute, un grand plaisir de t'avoir à nouveau. On a enregistré un épisode spécial d'Azeroth.fr parce que ça faisait 10 ans qu'on avait lancé l'émission. Hein, c'était notre épisode spécial anniversaire il y a quelques jours. J'ai également organisé une rencontre spéciale justement pour fêter ces 10 ans tous ensemble avec les auditeurs et ça s'est très très bien passé, c'était super cool, j'étais hyper heureux de tous vous retrouver pour ceux qui étaient là-bas, donc un vrai bon moment et quoi de mieux pour célébrer 10 ans de podcast que d'enregistrer un rendez-vous jeu.
Hein ? Oh, et PlayStation c'est de la merde.
Bon, bah écoute Dani, on va pouvoir se lancer dans le programme de l'émission. Comme on le disait, le gros morceau, ça va être l'annonce, ou plutôt la confirmation de la PlayStation Pro, dont les rumeurs étaient partout dans la presse jeux vidéo depuis des mois. Donc il y a eu une conférence de Sony à New York il y a quelques jours de ça, pour présenter le produit. D'abord, une remarque sur la conférence elle-même. Je ne sais pas si tu as vu le stream, toi, mais ça m'a paru étrangement. C'était très, très sobre et même très low-key, comme on dit en anglais. Ils n'ont pas fait de foin marketing. C'était genre une centaine de journalistes dans une petite salle de conférence. Avec pas d'effet, pas de... C'était limite, il s'excusait de présenter ce dont il nous parlait, j'ai eu l'impression.
Ah bah dis donc, ça a l'air d'être positif ton ressenti par rapport à la PS4 Pro.
moi je suis très neutre, mais vraiment par rapport à la PS4, je sais qu'il y a des gens qui sont très énervés et des gens qui sont... Non, je crois qu'il y a que des gens qui sont énervés en fait, il y a personne qui est hyper content. À la limite, les gens sont neutres. Mais ce type de présentation, généralement depuis la génération PlayStation 4, Sony nous a habitués à faire un petit peu plus sobre que les autres. Mais toi qui travailles pour un grand constructeur de l'industrie informatique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand on fait au niveau marketing une présentation où il n'y a pas les feux d'artifice, les stars de la pop qui viennent chanter dans ton truc, tu vois, c'est quand même un message
c'est un message que t'envoies, je pense. Et alors oui, c'est pas le 3, c'est pas la Gamescom, c'est pas Moi, l'impression que j'ai en voyant ça, c'est voilà, on annonce une mise à jour, un produit sympa, mais c'est pas la révolution qu'on pourrait attendre. Mais ouais, je pense que c'est ça, moi, mon ressenti. Et c'est voilà, on a des nouveaux produits à montrer, un nouveau châssis, un deuxième nouveau châssis qui offre plus de performance, mais enfin, c'est pas la PS5, quoi.
Ouais, vous emballez pas quoi, c'est pas moi c'est aussi effectivement l'impression que ça m'a donné. Alors le nouveau châssis dont tu parles, on va passer dessus rapidement, c'est la PlayStation 4 Slim qui est tout à fait dans la tradition des modèles mis à jour de presque toutes les consoles, mais en tout cas très certainement de toutes les consoles PlayStation. Donc c'est simplement la PlayStation 4 existante qui a un nouveau aspect extérieur qui coûte un petit peu moins cher, ou en tout cas qui s'adapte au prix le moins élevé de la PlayStation 4 actuelle. Elle est en vente dans quelques jours, le 15 septembre, pour 299 euros, $299 plutôt. Et bon, ça, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est très classique. Le plus gros morceau, ou peut-être la chose qu'on peut en dire, peut-être, c'est que elle n'a pas de capacité 4K, contrairement à la Xbox One S, qui est l'équivalent pour la Xbox One. Donc la Xbox One S avait un petit peu plus de puissance, et puis surtout le 4K avec un lecteur Blu-ray 4K. Ça sera important dans un instant de préciser sur le lecteur Blu-ray. Alors que la PlayStation 4 Slim est simplement une PlayStation 4 dans une nouvelle boîte.
Bah, ce lecteur 4K, je pense que c'est surtout un énorme revirement stratégique de la part de Sony, qui a toujours soutenu au maximum les lecteurs optiques, en fait. Avec la PS2 qui inaugurait, je crois, de mémoire, hein, le premier lecteur DVD sur une console sur le marché. Ensuite, la PS3 qui avait le premier lecteur Blu-ray. Et là, maintenant, qui saute le Blu-ray 4K, pour moi, c'est un message assez fort. Sur l'avenir de la technologie Blu-ray, hein.
Alors justement, on l'évoque, donc autant y aller à fond. La PlayStation 4 Pro, qui était le gros morceau annoncé, ils ont parlé de 4K du début à la fin. Ils ont parlé aussi de HDR, qui est un procédé d'affichage qui permet d'avoir une plage de couleurs beaucoup plus étendue, et donc d'avoir des nuances dans les couleurs sombres et couleurs brillantes qui sont, d'après ce qu'on dit, vraiment saisissante. C'est un petit peu différent des procédés HDR qu'on a dans les photos. Il y a plein d'apps et de photos qui sont capturées en HDR. C'est un petit peu cet effet, mais calculé comme ça à la base. Et une autre chose à préciser, c'est que nous, en voyant la conférence, en voyant le stream et en voyant les photos qu'on peut voir aujourd'hui, le problème, c'est qu'on peut pas apprécier la qualité de toutes ces images parce que on n'a pas d'écran 4K, enfin, à moins que vous ayez un écran 4K à ce moment, bien sûr. On n'a pas d'écran 4K et on n'a pas d'écran HDR. Ces deux technologies étant des technologies qui sont en train de devenir beaucoup plus communes, mais qui sont pas dans la plupart des écrans de la plupart des gamers, enfin la plupart des maisons de la plupart des gamers aujourd'hui. Donc tout ce qu'on a vu, c'est un petit peu difficile de juger de la qualité, étant donné qu'on le voit entre guillemets seulement en HD. Maintenant, ceci dit, il y a eu d'autres précisions sur le modèle PlayStation 4 Pro. Ils ont confirmé qu'il y avait une compatibilité ascendante, c'est-à-dire que les jeux et les produits PlayStation 4 d'aujourd'hui fonctionneront sur la PlayStation 4 Pro, et dans certains cas, s'ils sont améliorés, fonctionneront mieux avec plus de détails, plus de résolution, notamment possiblement une résolution 4K, ou alors, une amélioration sur l'affichage, sur la fréquence, enfin le nombre de FPS, la fluidité. Il y aura des applications 4K Netflix et YouTube disponibles sur le modèle donc Pro, et ils ont précisé que c'était vraiment pas leur idée, n'était pas de sauter une génération ou de mélanger deux générations. Ils ont envoyé le message que c'était une amélioration de la génération existante. Donc, on sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais ce qu'ils ont l'air de dire, en tout cas, c'est qu'il y aura un jour une PlayStation 5. On sait pas, hein, mais moi, c'est ce que j'imagine là. Il y aura un jour une PlayStation 5 qui, là, sera un vrai cassage de génération, ou un vrai passage de génération, et peut-être que les jeux PlayStation 4 ne seront plus compatibles. Encore que c'est pas la direction dans laquelle semble se diriger l'industrie, avec Microsoft et les évolutions de la Xbox One qui semblent vouloir garder la compatibilité pour toutes les machines à venir. Quoi d'autre? Il y avait aussi le fait que... Oui, alors on a une date de sortie, le 10 novembre, et un prix qui sera de $399, on imagine 399 euros aussi. Un tout petit mot sur le PlayStation VR, qui est le qui aura donc une image améliorée, peut-être une fluidité améliorée avec les titres PlayStation 4 Pro, enfin avec les titres normaux sur PlayStation 4 Pro, et encore une fois cette précision que tous les jeux fonctionneront sur les deux consoles. Et donc jusque là a priori tout va bien. Ils ont précisé aussi que pour certains éléments, le mode HDR sera disponible très très bientôt sur les PlayStation 4 actuels. Donc finalement, il reste vraiment que la 4K sur la PlayStation 4 Pro. Et puis, le moment un petit peu what the fuck où les gens n'ont pas compris, c'était ce moment où on a appris, après la conférence, que la console Pro n'incluait pas le Blu-ray 4K, qui a pour le coup fait faire la grimace à de nombreux acheteurs potentiels qui se disent mais vous me parlez de 4K sans arrêt, la console n'a pas de PlayStation de Blu-ray 4K, même la Xbox One S a un lecteur Blu-ray 4K. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je me retourne vers Dany et je demande aussi, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sony? Pourquoi ne pas inclure un lecteur Blu-ray 4K?
Parce qu'à mon avis, ça faisait passer évidemment le seuil psychologique du prix au-delà des 399 euros. Et voilà, quoi. C'est, à mon avis, c'est uniquement pour des raisons mercantiles.
Ouais. Bah, il y a ça d'une part, et puis peut-être un petit peu l'idée que le Blu-ray, bah comme tu l'as dit, ils croient pas forcément à l'avenir à long terme du média. À mon sens, c'est oui, vas-y.
Non, mais en plus il faut appeler un chat un chat. Hein. Je serais curieux de savoir quelle est la proportion de tes poditeurs qui a un lecteur Blu-ray 4K. Est-ce qu'il y en a plus de deux?
Bah non,
déjà une télé 4K, ça court pas les rues. Mais en plus, avoir envie de se dire, voilà, je vais acheter des Blu-ray 4K plutôt que des Blu-ray normaux. Déjà, il faut les trouver sur le marché. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas allé dans une boutique de Blu-ray DVD type Fnac ou autre, mais ça doit pas être facile à trouver les 4K en ce moment.
Non, parce que là, on parle de l'état actuel du marché.
Bien sûr.
Console va être là pour, on va dire, 3-4 ans à venir. On pourrait se dire que le Blu-ray 4K aujourd'hui n'est pas très commun, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de télé 4K, mais cette année ça commence vraiment à arriver, les télés à prix à peu près abordables, et puis avec ça évidemment vont arriver les Blu-ray 4K.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Maintenant, si on me propose une PS4 Pro à 399 ou une PS4 Pro à 449 avec lecteur Blu-ray 4K, perso, je préfère la version à 399. Hein.
À vrai dire, il y a, à mon sens, c'est plus une réflexion, non pas sur le Blu-ray 4K, mais sur le Blu-ray tout court.
Bien sûr.
C'est ça.
C'est une génération, de façon, à mon avis, qui a été nettement moins populaire en termes de médias, de par la généralisation en fait du digital et du contenu numérique dématérialisé, par opposition à la génération DVD où on en trouvait à l'appel. Maintenant, si tu vas dans une boutique aujourd'hui, par exemple la Fnac, le rayon DVD/Blu-ray, c'est l'ombre de ce qu'il était il y a 5 ans.
Ouais, c'est pas faux. Et moi, j'ai du mal à me souvenir quand j'ai acheté un Blu-ray pour la dernière fois. Je pense
t'as acheté Mad Max, je crois, l'année dernière, mais
ouais,
c'est tout.
Ouais, c'est ça. Mais c'est, à vrai dire, c'est plus parce que je suis frustré de ne pas avoir un moyen simple d'acheter les films que j'aime en numérique, plutôt que parce que je veux vraiment Mad Max en Blu-ray. Moi, je vais être parfaitement honnête, je l'ai jamais mis. Si, je l'ai mis pour regarder les bonus. Mais voilà, je l'ai mis dans ma console ou dans mon lecteur Blu-ray 3 fois pour regarder les bonus et encore. Mais pour regarder le film, j'avais d'autres moyens, quoi. Donc, c'était vraiment parce que je voulais l'avoir, parce que j'aime beaucoup ce film, mais c'est très, très rare. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation aujourd'hui où ils ont une connexion Internet. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas la connexion Internet qu'il faut. Je vais pas pouvoir regarder des films 4K avant un moment, etc. etc. » Ce qui est pas faux, mais... C'est plus un calcul de ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Je crois que t'as raison. S'ils avaient fait la machine à 50 euros plus cher, pour avoir le Blu-ray, ils auraient gagné avec l'avantage d'avoir un lecteur Blu-ray 4K, mais ils auraient perdu l'attrait avec le seuil psychologique de ces 399 qui sont un tarif à peu près raisonnable par rapport aux 299 de la console d'aujourd'hui.
Je suis d'accord, c'est un tarif qui te permet de faire hésiter en fait, mais si tu dis voilà, t'as le choix entre la PS4 Slim qui doit tourner très très bien ou la version Pro qui est déjà, enfin, l'intérêt de la version Pro est relatif, mais si tu dois en plus rajouter 150 euros par rapport à la Slim, enfin, c'est un peu tuer le produit avant même qu'il soit sorti, je pense.
Ouais, je crois que c'est on est à peu près dans ce type de réflexion effectivement, parce que comme tu le dis, les avantages de la PlayStation 4 Pro sont tout à fait relatifs. Je crois qu'une PlayStation 4 est à peu près aussi, enfin, reste assez intéressante. Je pense qu'ils voient sur le long terme, en fait, d'ici 2 ans, la conversation sera plus du tout la même parce qu'il y aura les services développés avec la 4K qui seront beaucoup plus communs, les services en ligne. De la même manière, le très haut débit est vraiment en train de s'installer. J'ai lu un rapport il y a pas longtemps selon lequel il y avait 15 millions de foyers français aujourd'hui déjà qui avaient accès au très haut débit, ce qui devient une partie raisonnable. 15 millions de foyers, je sais pas combien on a exactement de foyers dans le pays, mais c'est plus une part ridicule où il faut se battre pour essayer de trouver une connexion à 100 mégabits. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui écoutent et qui vont me dire « Ah mais non, mais moi, ils sont pas chez moi ». D'accord, je le comprends bien. Mais si on voit à 2 ans, je pense qu'ils privilégient effectivement l'idée de se dire « Bon, est-ce que je prends une PlayStation 4 ou une PlayStation 4 Pro ?» Si c'est 100 euros, bon, bah, je paye 100 euros de plus et je prends le truc qui est un petit peu plus future-proof. Est-ce que les gens qui ont déjà acheté une PlayStation 4 doivent... se poser la question d'acheter une PlayStation 4 Pro. Il y a plein de gens qui voient les choses comme ça et on est très très nombreux à avoir acheté une PlayStation 4. Moi, j'ai l'impression que pas vraiment, quoi. Peut-être à terme, mais moi, par exemple, je vais pas en acheter. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Déjà, j'ai pas de télé 4K, donc ça règle la question.
Vois le problème un peu différemment. Demain, ta PS4, elle flambe. Qu'est-ce que tu vas t'acheter, une Pro ou une Slim?
Bah, j'espère qu'elle va pas flamber, mais évidemment, j'achèterai une Pro.
Ah oui, tu vois, moi, ma réponse est moins tranchée que la tienne.
Ah oui?
Elle est plus nuancée, oui. Ça dépendra, je pense, de la nuisance sonore de la Pro par rapport à la Slim et de la vraie valeur ajoutée en jeu. Parce que, effectivement, tu vois, ils te le vendent en disant, ouais, 4K, c'est merveilleux, mais il faut pas s'attendre non plus à la performance d'une GeForce GTX 1080 non plus, hein, dans la console, qui elle-même déjà ne lance pas tout en 4K.
Bah, à vrai dire, on a déjà... je pense qu'elle est plus puissante, c'est sûr. Au-delà de ça, la raison pour laquelle Sony a décidé de prendre cette nouvelle stratégie, c'est un petit peu... On a beaucoup parlé du modèle des téléphones, où on a plusieurs téléphones qui sont compatibles, et puis il y a le modèle un petit peu plus cher, ça te fait de l'upsell, donc tu achètes le truc plus cher simplement parce qu'il est là. Je crois qu'il y a effectivement, pour les constructeurs, et c'est la même problématique chez Microsoft, la problématique, c'est que les générations de consoles aujourd'hui durent beaucoup plus longtemps qu'avant. C'est-à-dire qu'on a, a priori, avec cette stratégie aujourd'hui, on peut être à peu près certain que les générations dureront 7-8 ans, genre PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro incluses. Et alors qu'avant, on était sur 5 ans de génération. Et sur cette durée, qui était la durée de la PlayStation 3 et de la Xbox One, de la Xbox 360, ils voulaient pouvoir vendre un produit en plus à un moment où les processus de fabrication sont un petit peu rentabilisés pour vous vendre un truc en plus dans ces 8 ans. Donc, je crois qu'il y a... Au final, c'est très... C'est très difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas une bonne raison de le faire. Il y a plein de petites raisons de pourquoi ne pas le faire, en fait. La 4K, le fait d'en vendre une nouvelle version, le fait de rester à jour au niveau des performances, parce que, mine de rien, la Xbox One et la PlayStation 4, même si on a eu des jeux impressionnants, bah c'était quand même, par rapport aux autres consoles des générations précédentes, si on comparait à la puissance standard, c'est-à-dire la puissance des PC de l'époque... Eh ben, la PlayStation 4 et la Xbox One étaient très très modestes par rapport à la puissance des PC du moment où elles sont sorties. Donc là, il faut ramener une puissance un petit peu plus raisonnable, sinon ils se font vraiment dépasser et ça joue. dans cette industrie. Donc effectivement, le fait d'avoir un affichage 4K qui était nécessaire, le fait de se dire on va pouvoir en faire un petit peu plus d'argent parce que les générations s'allongent. Il n'y a pas une bonne raison, il n'y a pas une bonne motivation. C'est juste que bon, bah voilà, maintenant ceux qui ont déjà une PlayStation 4, bah ils peuvent la garder. Puis ceux qui en veulent une autre, enfin ceux qui n'en ont pas déjà ou ceux qui sont vraiment à fond, ils vont prendre une 4 Pro. Par contre, là où ça peut être un petit peu préoccupant, c'est l'idée de se dire les jeux vont désormais être tous présentés en 4K sur des PlayStation 4 Pro. Est-ce que les PlayStation 4 normales vont pas, là on parle un petit peu de travail de journaliste, mais comment est-ce qu'il va falloir juger les deux jeux? Est-ce qu'il va falloir est-ce qu'on va pouvoir même juger les deux jeux quand toutes les démos chez les développeurs se font sur la version la plus puissante de la console? Est-ce qu'ils vont travailler suffisamment pour que la version non pro soit potable et même au meilleur de ses performances? C'est des vraies interrogations là aussi.
Ou alors, est-ce qu'ils vont se baser sur une version PS4 de base la mieux possible et ensuite proposer 3 améliorations et demie pour dire voilà, on l'a fait sur PlayStation Pro, t'as trois explosions en plus qui sont assez jolies et c'est tout ce que vous aurez.
Ouais. Oui,
parce que ça coûte cher finalement hein, de faire ces améliorations. Et quand t'as un parc existant de 40 millions de consoles, je pense qu'il vaut mieux essayer de satisfaire d'abord les 40 millions d'utilisateurs avant de cibler finalement les gens qui vont peut-être se dire ah bah écoute la PS4 Pro pourquoi pas.
Ouais. Surtout que tu peux faire un truc un rendu en 4K et du coup tu dis bah voilà ça c'est pro de toute façon parce que vous avez la 4K quoi qu'il arrive. Je crois que d'une manière générale. Au-delà de ces histoires de 4K, pas 4K, HDR, machin, la PlayStation 4 Pro, c'est simplement une PlayStation 4 plus puissante. Donc même en mode non pro, c'est-à-dire enfin en mode non 4K, je pense qu'on va avoir au moins un nombre de FPS, on va être à 60 FPS, une fluidité qui sera plus intéressante en HD normal, entre guillemets. Donc c'est le pourquoi et le comment, en fait, a beaucoup moins d'importance si on essaye de comprendre ce qui se passe. C'est juste que c'est une console plus puissante. Voilà. Si tu veux la plus puissante, bah, tu prends celle-là. Et...
Mais moi, ce que j'aurais préféré, en fait, dans la PS4 Pro, c'est avoir, je trouve que les temps de chargement sur la PS4 sont ignobles, tellement c'est lent. Ouais. Et pour moi, ça aurait été, un ajout majeur de dire voilà on propose un SSD entier ou de cache de base avec la console pour dire les temps de chargement ils ont été réduits de X% et ça pour moi ça aurait eu une valeur ajoutée énorme par rapport à dire voilà vous avez la 4K, ce qui va correspondre à une infime minorité de gens qui ont déjà une télévision 4K, alors que ça aurait pu bénéficier tout de suite à beaucoup beaucoup de gens. Et moi ça m'aurait vraiment fait réfléchir de dire voilà tu joues à GTA 5, ok bah tes temps de chargement sont divisés par deux.
Royal. Ouais, GTA c'est que le au début quand tu le lances, oui. Après il y a plus de temps de chargement. Mais par contre c'est vrai que...
mais
c'est,
déjà il est bien pour ça, mais sinon la plupart des jeux où tu meurs et tu dois attendre une minute de chargement le temps de de revenir, c'est infernal quoi, c'est à te dégoûter. Ouais. Du jeu
je te trouve un petit peu sévère, il y en a peu qui sont aussi aussi terribles, mais c'est vrai qu'il y en a. Et puis bon, ok. Je pense qu'on a. C'est difficile d'avoir un avis définitif sur ces consoles, mais on peut parler un petit peu de Microsoft aussi. Moi, j'ai trouvé que y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce que je disais sur l'offre de Sony aujourd'hui. Moi, je la trouve plus claire que l'offre de Microsoft à l'E3 dernier. C'est-à-dire que Sony a aujourd'hui deux consoles, une version slim, une version 100€ plus chère, qui est un petit peu plus puissante. Je dis pas que la version pro est une merveille, mais ce que je dis, c'est que l'offre de Sony est plus claire. Au niveau communication, c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas, peut-être pas de vraie raison de prendre la pro, mais par contre, on sait quelle est la console, on sait ce qu'elle peut faire, et on sait combien elle coûte, et on sait quand elle sort. Alors que chez Microsoft, on a la Xbox One S qui est sortie au moins un an avant la Scorpio, et au niveau de l'offre, ça me paraît plus difficile de faire son choix, puisque effectivement, la Scorpio, on ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle va coûter, on ne sait pas ce qu'elle va pouvoir faire. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression aujourd'hui, alors là, on commence à spéculer, hein, mais j'ai l'impression aujourd'hui que la PlayStation 4 Pro, c'est juste une PlayStation 4 Pro. La Xbox One Scorpio, c'est beaucoup plus un changement de génération. On a des chiffres qui sont pas confirmés, mais des chiffres de puissance qui font état de... Alors, PlayStation 4, on parle en teraflop, qui est, de manière très schématique, la puissance de calcul d'un ordinateur. Sur la PlayStation 4, on était à 1,8 teraflop. La Xbox One était clairement en retrait à 1,3. Mais sur les versions pro, entre guillemets, on sera sur la PlayStation Neo à 4 teraflops, j'arrondis. Donc, plus de deux fois plus que la PlayStation 4. Mais sur la Xbox One Scorpio, on sera à 6 teraflops. Donc ça fait, rendez-vous compte, 4 fois plus que la Xbox One et 50% de plus que la PlayStation 4 Neo. Donc à mon sens, ce qui va se passer avec la Xbox One Scorpio, c'est qu'on aura vraiment beaucoup plus un changement de génération sensible sur le papier avec une rétrocompatibilité totale avec les jeux de la Xbox One. Et à mon sens, c'est le calcul de Microsoft qui se dit, même si la Xbox One, mine de rien, se vend pas mal, on est à, selon les estimations, à 30 millions d'unités aujourd'hui, ce qui est très loin d'être ridicule, mais à mon sens, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas, entre guillemets, rattraper la PlayStation, ils avaient clairement pris un retard là-dessus, et ils se sont dit, bon ben, on va y aller à fond sur la prochaine version. Oui, il y aura une compatibilité totale, ça sera quand même une Xbox One, mais là, il y aura, ça va pas être, oui, on aura un petit peu des améliorations, machin, des pas améliorations. Je pense que les jeux Xbox One Scorpio, je me demande même s'ils seront compatibles avec la Xbox One tout court. Je pense que oui, mais je me pose presque la question, je dirais.
Écoute, je suis pas en désaccord avec toi. Bon, on en sait très très peu pour l'instant hein, sur la Scorpio, mais le changement sera tellement majeur que effectivement on peut se poser la question de la rétrocompatibilité. Ensuite, enfin, pour moi Scorpio, ce sera plus un PC hein, finalement, enfin ouais. Un PC sur lequel tu ne fais que jouer. Ce qui aurait dû être en fait une sorte de Steam Machine par rapport à une Xbox normale ou 360 ou One qui y aura une démarcation vraiment très très nette entre, je pense, Xbox telle que la marque est aujourd'hui et celle qu'elle sera l'année prochaine.
Ouais, c'est-à-dire que effectivement là tu dis bon PlayStation 4, PlayStation Pro, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une Pro ouais peut-être, pourquoi pas. Je pense que effectivement la Scorpio, quand elle sera annoncée, ça sera pour le coup les feux d'artifice, la joie totale.
Attendons de voir le prix avant.
c'est aussi une question importante. Il faut, à mon sens, qu'elle soit au tarif de 399. Elle peut pas être plus élevée. Si elle est plus élevée, ça sera très très compliqué. Surtout que d'ici là, on risque de commencer à avoir déjà des promotions sur la version PlayStation Pro, peut-être un petit peu moins cher, ou des bundles intéressants. Si en plus la Scorpio est à genre 449 ou même Dieu nous en garde 499, ça sera un gros problème.
Si teraflop dans un an, hein. C'est dans pas si longtemps, hein. C'est beaucoup beaucoup si teraflop.
Oui, oui, enfin c'est beaucoup, beaucoup. Je sais pas combien font les PC actuels, mais je suis à peu près certain qu'ils font déjà beaucoup plus.
De mémoire, hein, les ouais. GeForce GTX 1080, je crois que ça monte à 6 teraflops justement. Mais bon, d'accord. C'est juste la carte graphique, t'as pas
oui,
le processeur avec.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc bon, je crois qu'effectivement, là, moi aujourd'hui, par exemple, à l'annonce de la PlayStation 4 Pro, je me suis dit, ouais, bon, ok, ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Le jour où j'aurai une télé 4K, j'y penserai peut-être. Tu vois, c'est ce type de ouais. Réflexion. Et on risque d'avoir une situation inversée même, où la PlayStation 4 Pro va allouer son budget, on doit toujours hésiter et trouver un équilibre entre fluidité, donc nombre d'images par seconde, et complexité de la scène 3D à calculer. Donc c'est pour ça qu'on peut jamais garantir 60 images par seconde, parce que les développeurs vont toujours tirer un petit peu du côté de la complexité de la 3D pour afficher des trucs plus beaux et essayer de rester autour des 30 images par seconde. Le spectre du 60 images par seconde pour toujours, pour tout le monde, c'est impossible. La puissance de calcul va forcément être allouée à d'autres trucs si elle est disponible. Mais donc l'hésitation entre la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro, c'est ouais bon peut-être, alors que à mon sens entre effectivement la Xbox One ou la Xbox One S aujourd'hui et la Xbox One Scorpio, il y il y aura une différence de puissance tellement claire que tu diras, bon bah voilà, moi si je veux un truc le dernier cri, je vais prendre la Scorpio. Et même, on va se retrouver dans une situation inversée, comme je disais, entre aujourd'hui la PlayStation 4 et la Xbox One, bah il y a des petites guerres de chapelle entre, oui, la Xbox One, elle fait pas vraiment du 1080p, c'est du 900p upscalé, etc. Je pense que la PlayStation 4 Pro va faire du 1080p ou un petit peu plus, ou du 1440p upscalé en 4K, alors que la Xbox One Scorpio risquera de faire de la vraie 4K d'origine. Et on se retrouvera avec la puissance de calcul supérieure sur la génération qui va rebasculer du côté de la Xbox One Scorpio. Donc,
bon. Ça lancera un débat intéressant dans un an, hein. On en reparle dans 12 mois. Mais ouais. La question à ce moment-là, ce sera, est-ce que ça vaut le coup de changer ta télé Full HD pour une télé 4K ?
Mais moi, je crois que la question ne se posera pas énormément. Je pense qu'il y a énormément de joueurs et de fans de cinéma qui vont passer à la 4K. Moi, je crois que c'est inévitable. J'étais à la Fnac il y a quelques jours et je commençais à voir des télé 4K de vraiment de bonne qualité qui commencent à flirter avec les 1000 euros. C'est le prix des télé HD, des télé HD de bonne qualité d'il y a 4-5 ans.
Ouais, donc, ouais, bien sûr.
À mon sens, aujourd'hui, quand tu vas, c'est comme tu vas renouveler. Alors ensuite, est-ce qu'on réussit à percevoir la 4K ou pas en fonction de la distance? C'est même une autre question. Généralement, les gains, les bénéfices de la 4K sont pas évidents pour tout le monde. Moi, je trouve ça joli. Je suis pas certain que ça vaille un changement de télé, mais peut-être que si j'ai une télé à racheter, il est évident que je vais pas acheter une télé.
Voilà,
HD,
voilà. Mais la question, enfin, si t'as une télé à racheter, c'est un débat complètement différent. En revanche, si tu dis voilà, j'ai aujourd'hui ma 1080 qui marche très bien, est-ce que ça vaut le coup que je me prenne une deuxième télé?
Bah moi, je suis un gros geek. Je crois qu'à un moment, je revendrai ma.
J'ai moi, acheté. J'attendrai la 8K personnellement.
Ouais, mais... Non, mais c'est. Tu sais, tu rigoles, mais c'est même pas faux. Hein. Oui. Il y a la 8K qui va être la génération d'après et qui va arriver effectivement. C'est pas une plaisanterie. Donc.
À l'époque, les premiers articles que j'avais lus dessus annonçaient la sortie de la 8K pour 2018-2019. Donc même si c'est un an ou deux après. Ça vaut peut-être le coup de retarder et de sauter une génération, en fait, et de retarder cet achat. Mais
sauf que ça sera beaucoup plus cher.
Ah bah évidemment. Mais tu sais, regarde, la 4K, les premières télés sont sorties il y a quoi ? Il y a 2 ans. Elles étaient à des prix monstrueux. Et maintenant, finalement, c'est 1 000 euros pour une télé 4K. Ouais. C'est voilà, 1 000-1 500 euros. C'est, je vais pas dire c'est raisonnable, mais pour des gros geeks tels que nous, qui ne vivons que par les nouvelles technologies, finalement, c'est abordable.
Sauf que la 8K, si tu prends 2 ans après la sortie pour un tarif abordable, ça nous amène à 2020-2021. Bon, entre-temps, tu peux peut-être acheter une télé 4K pour apprécier la 4K pendant...
Oui, mais je me souviens un peu de l'époque où nos parents achetaient une télé et la gardaient 15 ou 20 ans.
Bah oui,
c'est
non,
fini
mais...
ça, c'est fini. Mais une télé, c'est pas un achat extrêmement excitant parce que tu vas regarder tes séries télé, ok, qu'elles soient en Full HD ou en 4K, enfin moi je vois pas la différence.
Là, donc, ça c'est la grande
question.
C'est bien
quand tu joues, c'est bien quand tu joues, mais si tu fais autre chose dessus, l'intérêt il est d'autant plus réduit. Donc c'est pas aussi flagrant que de passer d'une télé CRT, enfin un écran cathodique, à un écran plat Full HD.
Ouais, non, ça c'est sûr. Le bénéfice n'est pas aussi clair. Je dirais pour conclure qu'effectivement, peut-être que pour la 4K, j'attendrai de voir une série Netflix 4K chez un ami qui a une télé 4K.
Bah viens chez moi, j'ai une télé 4K et je peux te dire que j'ai vu Daredevil saison 2 en 4K sur Netflix. Ok, bah c'est chouette, hein, mais.
Ah mais je savais pas que t'avais une télé 4K.
Bah, oui, bah enfin quand j'ai déménagé en Angleterre, j'aurais profité pour m'en prendre une 4K.
D'accord.
Ça m'a coûté
un bras.
Et donc
toi tu recommandes pas.
Écoute, honnêtement, si tu me dis aujourd'hui est-ce que tu peux revenir sur ton achat, alors je te dirais oui et je privilégierais plutôt la finesse du bezel et de la télé et son aspect esthétique plus que la résolution.
D'accord. Bon bah écoute, du coup c'est une bonne résolution justement, ne pas acheter de télé 4K et attendre la 8K pour pouvoir du coup acheter en même temps la PlayStation Pro et la Xbox One. Alors pas Scorpio, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que Scorpio, Serpento.
Voilà, Serpentot, non, Squid. Squido, parce que c'est Squid. Plus fort. C'est bien. Plus fort. Bon, ça a plus de bras et de tentacules, donc c'est
vrai.
Beaucoup mieux.
C'est vrai, c'est vrai. La Xbox One, Squido. Ah, mais en plus, Squido, Octopus, Octo, 8, 8, 4,
mais
tout
voilà,
ça, c'est
exactement,
parfait.
Exactement, c'est parfaitement lié.
Magnifique. Bon, bah, trêve de Xbox One, Squido. On a une information, un peu mini bad buzz chez Sony avec le fait que les mods pour Fallout 4 et Skyrim ne seront pas disponibles sur PlayStation 4 malgré les promesses qui ont été faites, simplement parce que Sony n'accepte pas le mode de mise à disposition que voulait mettre en place Bethesda avec ses mods. Ils sont disponibles sur Xbox One depuis quelques temps, mais ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Alors, on connaît pas les détails du truc. C'est sans doute, je pense, que Sony veut pas simplifier ses processus de validation et qu'ils ne veulent pas que les utilisateurs puissent livrer des mods dont certains pourraient être un petit peu tendancieux dans le contenu. Moi, j'imagine que c'est ça. Bon, après, c'est sûr que c'est pas cool. Je pense que ça concerne pas énormément de joueurs non plus. Je pense que les vrais joueurs de Fallout ou Skyrim qui veulent les mods, ils sont plutôt sur PC. Mais c'est clairement pas un bon buzz pour Sony. Le Xbox Live et le PlayStation Network ont été testés et le résultat est assez clair en faveur du Xbox Live. Moi, je pense qu'effectivement, alors c'est une société d'analyse qui s'appelle IHS Markit qui a testé ça. Et en gros, je schématise, le Xbox Live est bien meilleur que le PlayStation Network. Ça me surprend pas non plus. Généralement sur le PlayStation Network, bon, ça va, hein, sur les jeux tu peux jouer, t'as pas de problème. C'est surtout sur les téléchargements, la lenteur de la connexion, tout ça. Le PlayStation Network est à un niveau de performance qui est pas digne de, qui est acceptable, mais qui est gênant régulièrement, on va dire. Régulièrement, moi j'ai des moments où je me dis oh, putain. J'ai même pour la démo de, enfin la bêta de Titanfall. J'avais commencé à télécharger sur PlayStation, j'avais genre 12 heures d'attente, j'ai essayé de faire pause, relancement, etc. J'en ai eu tellement marre, j'ai sorti la Xbox One, j'ai lancé dessus, au bout d'une demi-heure c'était réglé, alors que sur la PlayStation 4 c'était encore 12 heures. Quoi. Donc,
Je confirme, j'ai la même expérience ici et pourtant j'ai une connexion en gigabit. Donc,
Oui, bah pareil, moi c'est connexion gigabit.
C'est honteux.
Ouais, on est d'accord. Quoi d'autre? Encore pour finir sur Sony, ils vont pousser vers le jeu mobile de manière très agressive. En fait, ils ont mentionné Pokémon Go comme exemple à suivre, on va dire. Moi, ça m'enchante pas forcément, mais ok, j'espère qu'ils feront des jeux un petit peu plus gamer.
L'avenir pour les jeux sur téléphone portable est sombre.
Attends, on a une petite news qui arrive va peut-être éclairer le téléphone portable. Et puis un truc qui m'a rappelé ma nostalgie des années 2000, c'est que pour le PlayStation VR, il y aura un disque de démo qui aura 8 petits jeux démo inclus dessus. Donc c'est toujours sympa pour avoir c'est parfait pour le PlayStation VR qui sort dans un mois.
Hein, tu vas te l'acheter ?
Ouais, moi je l'ai précommandé, ouais.
D'accord.
C'est bah en fait je voulais un truc de VR et puis c'était le moins onéreux et comme visiblement moi je l'avais essayé à la Paris Games Week l'année dernière et j'avais été même si on voyait les pixels c'est certainement moins puissant et moins performant que le Vive ou le Oculus Rift. J'avais été satisfait de l'expérience, j'avais une latence qui était nulle, donc j'avais l'impression d'être immergé dans le truc. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais prendre ça plutôt que d'acheter des trucs un peu plus compliqués comme première expérience. Ensuite, on verra quand le Oculus Rift version 2 et le Vive version 3 sortiront. Peut-être que je me dirigerai dans cette direction si je suis convaincu. Mais pour ça, il va falloir que l'expérience PlayStation VR aille plus loin que juste les jeux du disque de démo, tu vois.
C'est ça qui me fait un peu peur, hein, parce que le line-up de lancement est pas, disons, fou, hein. J'ai longuement hésité, et puis je me suis dit que finalement, surtout que je peux avoir des prix en plus dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, et ben en fait non, je crois que je vais attendre, parce qu'il y a vraiment rien
d'intéressant.
Il y a rien de très très excitant malheureusement.
Ouais. Mais même sur les sur la VR sur PC hein,
oh bah,
il y a des...
j'ai un casque Oculus chez moi, je l'ai utilisé 3 minutes. Voilà. Okay. Je l'ai utilisé 3 minutes et je l'ai remis dans son carton et je l'ai pas déballé depuis 6 mois, ouais.
Mais pourtant, il y a des gens qui me disent que certains jeux sont vraiment bons, genre Edge of Nowhere, je crois que ça s'appelle.
Oui, je l'ai hein. Donc je l'ai essayé 10 minutes. Le jeu est mignon. Mais enfin bon,
pas plus
disons
que
ça. c'est pas un vrai bon Resident Evil par exemple, donc c'est une expérience sympa en VR pour débuter, mais disons que si tu mettais le même jeu en version classique non VR sur le marché, t'en vendrais 3 hein.
Oui, mais la VR est quand même un élément important du truc, donc on peut pas le
Oui, mais alors ça n'excuse pas le fait qu'il faille quand même des jeux qui soient aussi d'un niveau comparable à ce que t'as en non VR. Si les jeux sont quand même des versions moins agréables, moins sympas, moins jolies, moins fun, ça reste que ce sera des jeux moyens comparés à ce que tu peux avoir sans la VR. Et je pense que aujourd'hui moi vraiment fortement que pour avoir une expérience VR réussie, il faut que le jeu aussi soit aussi bien que ce que tu pourras avoir en classique.
Oui, c'est sûr, mais je veux dire, pour un jeu comme Edge of Nowhere, par exemple, t'as pas une expérience différente, même si le jeu est moyen, parce que tu te sens immergé dans le truc, que t'as l'impression...
Il est sympa, mais c'est pas...
Non, mais au-delà du fait que le jeu soit sympa, la simple immersion ne t'apporte pas selon toi
pour moi ça
un
suffit
supplément,
pas pour moi ça suffit pas ça suffit pas d'accord. pour avoir un jeu VR réussi. Je pense que le cœur du jeu doit être réussi lui-même.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oui, non, mais bien sûr, je vais pas te dire non, le jeu peut être pourri et c'est bien quand même, mais c'est juste que cet aspect différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres expériences de gaming pourrait amener suffisamment de comment dire d'émerveillement pour que ça soit agréable, tu vois.
Alors j'ai essayé en fait, enfin j'ai plusieurs jeux donc sur Oculus. J'ai essayé The Climb par exemple, donc tu sais c'est un jeu d'escalade etc avec des graphismes plutôt chouettes. C'est immersif. Le jeu en lui-même est vraiment pas super amusant, hein. Donc quand tu vois que il est vendu genre à 50 ou 60 euros sur le store Oculus, ça fait mal. Et pour moi, la seule expérience vraiment où je me suis bien amusé, c'était sur le Vive. C'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeu de zombies ou, enfin, c'est une sorte de rail shooter en fait, sur un jeu de zombies et qui se sert en plus des capteurs de mouvement pour avoir une expérience plus amusante et immersive. Donc le jeu est sympa, mais ça sera pas aussi bon qu'un, enfin tu vois, si tu compares par exemple à House of the Dead il y a 15 ans qui était un classique de Sega où tu flinguais des zombies, ça reste moins fun. Et donc ils ont pas encore atteint le niveau de fun qui est suffisant pour te dire VR plus ce jeu, c'est clairement le truc pour lequel tu dois taper dans les 800 euros pour te dire voilà, ça y est, ça vaut le coup.
D'accord. Bon, c'est sûr que même ce dont j'essaye de parler, c'est-à-dire cette expérience d'émerveillement, de transport, d'être transporté quelque part, c'est le genre
mais
de
ça
truc
marche,
qui
hein.
te...
Ça marche, mais ça marche un petit moment. Et ensuite, tu dis, ouais, le jeu est pas non plus super amusant, je préfère retourner sur Overwatch, quoi.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, ça marche un petit moment, ça va marcher 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes.
C'est comme la 3D en fait. Enfin, tu vois, quand tu regardes à l'époque, quand tu regardais Avatar au cinéma en 3D, c'était, oh, c'est génial, c'est super et tout. Tu ressors, tu dis, ouais, bon, finalement, le film était moyen.
Bon, écoute, le seul truc qui me laisse penser que peut-être il y a de l'espoir pour
c'est
la
que tu as adoré Avatar en plus en tant que film.
C'est ça, en plus. non, mais c'est surtout que tu as l'habitude d'être quand même, on va dire, très conservateur dans tes jugements, très mesuré. Donc peut-être que l'expérience sera
écoute,
plus positive
reparle,
pour moi.
On en reparle dans bah, pas,
dans
pas,
un mois
pas,
et quelques.
Non, pas dans un mois et quelques. Quand suffisamment de temps se sera écoulé avec la avec le lancement du PSVR et des deux autres casques concurrents évidemment, moi je te propose qu'on en reparle en février-mars. Hein.
Oui, bien sûr. Bah écoute, mais je suis pas en train de dire que t'as tort. Hein. Je suis juste en train d'espérer que tu aies tort.
Mais moi mais j'espère aussi, et j'ai très très peur au vu de ce qui a été annoncé sur le PSVR que ce soit exactement la même chose. C'est des petits jeux mignons sur lesquels tu t'amuses 10 minutes, un peu comme les jeux qui étaient distribués gratuitement avec la Wii de base. T'avais le tennis, le golf, la boxe, machin et tout. Super sympa une soirée, et une fois que tu as joué avec tes potes deux fois, enfin voilà quoi.
Ouais, c'est vraiment le pire scénario de la VR que tu es en train de nous dépeindre là. Mais bah, on verra. Moi je pense que la génération, enfin la VR va vraiment commencer avec l'arrivée du PlayStation VR, et que même après ça, il va falloir encore un moment avant que les gens...
Moi je pense que ça viendra plutôt avec l'arrivée du PSVR 2, Oculus Rift 2 et du HTC Vive 2.
Bon, on verra. Tu veux dire du PSVR Pro qui vont nous vendre dans deux
du
ans.
Pro plus S. Avec 3% d'amélioration des performances.
Magnifique. bon, bah écoute, justement, en parlant de plus S, parlons de 3DS avec le Nintendo Direct. Je sais pas combien de temps on va passer dessus, mais à mon sens, il n'y a pas énormément de choses à en dire. Il y a eu un Nintendo Direct il y a une semaine environ, avec une présentation de plusieurs jeux 3DS, et c'est tout. Et certains de ces jeux 3DS étaient des jeux qui étaient disponibles sur Wii U, qui sont transférés entre guillemets sur 3DS. Il y a Yoshi's Woolly World qui arrive sur 3DS, il y a Super Mario Maker qui arrive sur 3DS. On peut pas faire de niveau, on peut pas. Enfin, il y a une différence avec pardon, on peut pas partager ces niveaux de la même manière, etc. Mais c'est quand même Super Mario Maker, Mario Sports Superstar avec plein de jeux différents, Pikmin qui va arriver en version jeu de plateforme en quelque sorte, scrolling horizontal. Enfin, moi j'ai une opinion sur tout ça. Est-ce que tu as eu une analyse sur ce Nintendo Direct 3DS?
Disons que je pense que les résultats pour les fêtes de fin d'année pour Nintendo vont être difficiles avec ce line-up.
Pardon, j'étais en train d'allumer ma lumière, je pensais que tu dirais quelque chose de plus. Oui, bah ça
non,
va être
mais,
difficile,
enfin, oui,
c'est sûr.
C'est, voilà, c'est difficile. Je suis surpris et je suis un peu déçu en fait qu'il y ait rien, quoi. Il y a rien de nouveau, rien.
Bah, en fait, à mon sens, ce qu'ils ont fait, c'est que une fois, enfin, c'est même plus à prouver, mais on le dit depuis un moment, la Wii U est morte de chez morte, mais encore plus que là, elle est carrément enterrée. Ils ont commencé à mettre la terre sur le cercueil, tout ça. Et donc ils essayent de récupérer de l'argent du développement de certains jeux qu'ils ont fait sur Wii U en les sortant sur 3DS avec une adaptation qui coûte un petit peu d'argent bien sûr, mais qui va permettre de présenter ces jeux au lieu des 10 et quelques millions d'utilisateurs, enfin d'acheteurs de Wii U qui en plus pour une bonne partie d'entre eux ne l'allument plus. Ils vont proposer ces jeux aux dizaines de millions d'utilisateurs de 3DS, de possesseurs de 3DS. Et donc c'est un moyen de rentabiliser ces jeux-là parce que c'est un gâchis quoi. Ils ont été sortis sur une console qui a été le plus gros échec commercial de Nintendo de l'histoire. Donc oui, à mon sens, c'est ce que veut dire cette stratégie. Maintenant, enfin ce Nintendo Direct. L'autre grosse question, c'est est-ce que la NX va être retardée au-delà de mars? On sait qu'elle a été prévue annoncée aux investisseurs pour mars 2017. La grande question, c'est est-ce qu'elle va être retardée parce que elle n'a toujours pas été présentée. Et puis là, bah mars, ça s'approche quand même. Mais je sais pas, moi je crois qu'ils vont tenir mars quand même parce qu'ils peuvent pas.
Ça va être très très difficile, surtout au vu des résultats qu'ils attendent cette année. S'ils continuent encore une année, ou disons une année entière fiscalement, ou même avec ne serait-ce que quelques mois de retard, ça me semble risqué pour la NX. Ensuite, disons que l'abandon complet de la Wii U, c'est quand même un peu une douche froide pour tous ceux qui en ont acheté une il n'y a pas si longtemps.
Mais et... qui, il n'y a pas si longtemps, personne n'a acheté une Wii U dans les derniers 6 mois. Faut être
non,
faut
mais, être un malade mental. Moi, j'ai acheté la mienne il doit y avoir 3 ans maintenant. Bon, il y a 5 jeux dessus, quoi. Ça me fait remettre en question aussi la confiance que j'ai en Nintendo pour soutenir un line-up conséquent sur la durée de vie de la console qui s'est considérablement raccourcie. Non seulement il n'y a pas eu beaucoup de jeux, mais en plus elle a une durée de vie assez faible. Et je me dis que est-ce que ça vaut le coup d'acheter une NX dès le départ, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la fin de la vie de la console pour l'avoir pas trop cher et acheter 2-3 jeux qui seront sympas dessus avant qu'elle passe en fin de vie. C'est peut-être une réponse.
Ta confiance est émoussée, quoi.
Oh bah beaucoup, beaucoup. Alors que finalement, sur leurs autres consoles, même la GameCube qui avait été un succès relatif à l'époque.
Ouais.
C'est relatif.
Mais gentil avec ton ancien employeur Nintendo.
Voilà, exactement.
Payé
voilà.
Par Nintendo.
Mais même là, il y avait quand même un nombre conséquent de jeux lancés dessus pendant la durée de vie de la console, et de très très bons jeux. Alors que là, la Wii U, à part les titres Nintendo, enfin, c'est léger, léger, léger. Hein.
Je crois que, ah bah oui, c'est même plus que léger, c'est sûr. Il y a quelques jeux excellents sur Wii U que j'avais adoré et dont j'avais chanté les louanges dans cette émission. Mais pour la question de la GameCult, par exemple, elle avait fait un score plus élevé que la Wii U à une époque où le marché des consoles était beaucoup plus petit. C'est ça. Donc,
ouais.
C'était un succès relatif, mais on avait quand même une vraie console à l'époque. Ça montre l'échec abyssal de la Wii U aujourd'hui, qu'elle ait fait moins que la GameCube à l'époque. Et oui, effectivement, il y a eu tellement peu de jeux. Je comprends que la confiance soit émoussée, c'est certain. Moi, je pense que la NX, ils ont déclaré depuis un moment qu'ils veulent s'assurer qu'il y ait une bonne quantité de jeux disponibles au lancement. Donc un Mario, peut-être que Zelda sera, enfin on sait que Zelda sera compatible avec, donc il sera à peu près disponible au lancement. Donc s'ils mettent un Mario en plus ou un autre gros titre comme ça, moi je leur, enfin ça reste Nintendo, tu vois, c'est quand même une de ces sociétés où tu peux t'assurer que le game design est tellement bon dans les jeux, si c'est un jeu que t'aimes bien, bah tu peux l'acheter les jeux fermés. Ça fait partie de ces boîtes.
De toute façon, les jeux Nintendo là-dessus, il y a aucun souci là-dessus. Moi, il y a une chose en revanche qui me fait peur, c'est avec l'échec de la Wii U. Est-ce que Nintendo va continuer à faire des consoles selon le succès ou pas de la NX? Et est-ce que sinon, Nintendo va suivre le chemin de Sega? Et Sega, maintenant, on sait à peu près le poids qu'ils ont dans le marché du jeu vidéo au niveau mondial, et l'originalité et le renouveau de leur jeu, c'est quand même limité. Et ça me fait un peu peur pour l'avenir de Nintendo s'ils se disent demain, bon bah voilà, les consoles ça marche plus trop, on va arrêter d'en faire, on va sortir des jeux sur Xbox Squido et,
et la PlayStation PS4 Pro
plus S Pro et surtout se concentrer sur le marché du téléphone portable. Et alors là, ce serait vraiment dommage.
Ouais, moi, bon, malgré tout l'amour que j'ai pour Sega, je pense qu'il y a peu de danger qu'on arrive dans une situation où Nintendo, même en tant que simple éditeur, arriverait à ce niveau. Parce que Sega, d'une part, n'a jamais été au niveau de Nintendo en game design. Ils avaient la console, donc ils étaient en concurrence, mais les jeux n'ont jamais été aussi bons, même si j'aime bien Sonic, machin. Il y avait des bons jeux Sega d'arcade, on se souvient tous des beat'em up, des machins, bien sûr, des Golden Axe et tout ça, mais ils ont jamais été au niveau de Nintendo. Et puis, même
j'espère
si
que
moi,
tous
j'ai...
les Sega fans qui écoutent ce podcast vont écrire des commentaires de mécontentement vis-à-vis de Patrick.
Si quelqu'un réussit à montrer comment Sega a eu autant d'influence et autant d'excellence dans le domaine du jeu vidéo que Nintendo, je serais curieux de le lire, parce que vraiment
tu sous-entends que Shinobi n'a pas fondamentalement changé le marché du jeu vidéo.
Mais j'ai adoré Shinobi.
J'espère bien.
Entre Zelda et Mario, déjà t'as un un quart de l'histoire du jeu vidéo.
Je rigole, bien sûr, évidemment.
Mais au-delà de ça, moi, je pense que si Nintendo... Moi, je veux vraiment de tout mon cœur qu'ils continuent à faire des consoles, parce que je pense que c'est un facteur différenciant important, évidemment. J'enfonce une porte ouverte, là, mais je pense que si jamais ils devaient, avec l'échec... Si la NX est un échec, je pense qu'ils devront très sérieusement se poser la question, c'est sûr. Parce que toutes leurs consoles, à part la Wii, qui a été une anomalie complète... Toutes leurs consoles se sont vendues de moins en moins à chaque nouvelle génération. Ça a été depuis la Super Nintendo, la Nintendo 64 a fait moins bien, la GameCube a fait moins bien que la Nintendo 64, etc., etc. Donc, ils devront se poser la question. Et je pense que s'ils arrivent à cette conclusion, ils peuvent quand même nous sortir d'excellents jeux sur PlayStation Pro ou Xbox Squido. Je pense que... ils resteront d'excellents développeurs.
Ah bah ça changera rien là-dessus. Mais en revanche, mais de toute façon, oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra remettre en question tôt ou tard, parce que bah tu l'as dit, enfin leur vente de consoles se réduisent comme des pots de chagrin dans un marché qui s'agrandit d'année en année et à terme, enfin j'ai du mal à voir la place du hardware Nintendo en sachant que dessus, bah comme tu vois sur la Wii U, il y a quasiment que des jeux Nintendo.
Bon, écoute, moi j'espère que la NX sera un succès incroyable. J'y crois, hein, je veux croire en Nintendo. Mais au-delà de ça, ils ont aussi d'autres avenues de revenus avec, par exemple, on sait que parlons de Pokémon, Pokémon Go, malgré tout le dédain que j'ai pour ce jeu, il a fait des quantités, selon App Annie, qui est une autre firme d'analyse, Pokémon Go a généré des revenus de 500 millions de dollars en 2 mois, ce qui est une quantité phénoménale. Ça donne ce qu'on appelle un ARPU, Average Revenue Per User, donc revenu moyen par utilisateur, de 1$, ce qui est énorme pour les jeux freemium de ce type-là. C'est 3 fois plus vite que Candy Crush Saga, presque 7 fois plus vite que Puzzle & Dragons et Clash of Clans, qui ont mis 400 jours à arriver à un chiffre comme ça. Alors évidemment, ça, je pense que Pokémon Go va chuter ensuite beaucoup plus que ces autres jeux dont on parlait, qui sont des machines à revenus constantes depuis des années. Mais il n'empêche que c'est une preuve assez... Enfin, ça va donner des idées à énormément de gens qui regardaient Clash of Clans, Puddle and Dragon et machin, et qui se disaient, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Et le fait que Pokémon porte le nom de Pokémon, même si Pokémon Go, à mon sens, n'est pas un jeu de gamer console, c'est un jeu vraiment mobile qui est pas si différent de trucs comme on avait vu, Ingress, enfin, etc. Il y a plein
bon,
de...
C'est Ingress, hein, c'est Ingress.
Oui, voilà,
de...
bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu mobile, oui. Mais pour une raison... purement financière et d'association d'idées, on a des gens comme les gens de Sony, je crois que c'était Andrew House ou Cass Hirai, je sais plus, qui disaient bah maintenant on va s'intéresser aux jeux mobiles à fond, etc., etc. Les gens se sont réveillés, quoi. Et avec l'exemple, enfin ce chiffre de 500 millions, on peut le comprendre.
Il va y avoir Nathan Drake Go bientôt, et là tu seras obligé d'y jouer et de capturer tous les trésors.
Je suis pas certain, tu sais, c'est vraiment vraiment pas mon truc. Mais un truc qui me donne de l'espoir, c'est les 24 secondes qu'on a vues de Super Mario Run, avec cette présentation incroyable de Miyamoto. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, pendant la conférence d'Apple de présentation de l'iPhone 7, on s'attendait tous à avoir un truc un petit peu plan-plan, pas hyper intéressant. Et tout à coup, 5 minutes après le début, Tim Cook qui dit « Oui, bon, salut, le jeu, c'est super important sur les mobiles. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est là pour nous présenter son nouveau jeu mobile. Monsieur Shigeru Miyamoto de Nintendo, venez sur la scène et présentez-nous votre jeu. » Et là, vous auriez dû me voir dans le live, si certains d'entre vous écoutent Upload ou ont vu le live qu'on a fait avec Geek Inc., ma tête a explosé, quoi. C'était Miyamoto qui arrive sur scène, personne s'y attendait, et c'est difficile pour les gens qui connaissent pas l'histoire du jeu vidéo de comprendre à quel point ce type est une légende. On en a parlé un petit peu avec Zelda et Mario et d'autres, mais le fait qu'ils viennent sur scène chez Apple, c'était inattendu, et c'est comme si, limite, s'ils avaient ressuscité, non pas Steve Jobs, mais John Lennon, quoi. Enfin, je sais pas, c'était, moi, ça m'a mis sur le cul. Toi, ça t'a fait quelque chose ou...
Bah, pour moi, c'était, et c'est triste à dire quand même, parce que c'était la plus grosse annonce finalement d'Apple pendant leur conférence de presse, je trouve. Et c'est dommage de dire que finalement, c'est une société tierce qui vient apporter à Apple le renouveau dont ils ont besoin aujourd'hui.
Oui, j'irai pas jusqu'à dire le renouveau, mais c'est parce qu'on est des gamers aussi.
Ah bah oui, mais c'est quand même une annonce majeure, alors que finalement tu dis ouais ok bah l'iPhone 7 bah ok il y a un shiny jet black qui sera très joli, il y aura un processeur plus puissant et iOS 10, ok bon bah c'est bien. Mais alors que là c'est Miyamoto.
Mais oui c'est ça, bon nous on est un petit peu biaisés sur ce point je pense, et d'ailleurs donc Super Mario Run, c'est certains l'appellent un endless runner, donc de ce type de jeu dont il y a beaucoup. Moi, je pense que c'est pas vraiment ça du tout. C'est comment dire ? Bah, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce truc ? T'étais déçu que ça soit ce type de jeu ou ?
Je suis pas trop fan des runners, qu'ils soient endless ou pas. Ensuite, je fais confiance à Miyamoto pour que la jouabilité soit incroyable. Et ce sera peut-être un exemple à suivre en termes de jouabilité pour avoir des vrais jeux type console sur un écran de portable.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est que pour les gens qui connaissent un petit peu Mario, l'impression que tu as quand tu joues, alors effectivement, Mario court tout le temps. Et tu le fais sauter en appuyant sur l'écran, hein. C'est un jeu que tu peux jouer à une main. Il a dit d'ailleurs, c'était ouais. Marrant, Miyamoto disait, ouais, comme ça, vous les Américains, vous pouvez manger votre hamburger et jouer de l'autre main. C'était genre, ok, c'est... bon, merci le Japon. Mais l'impression que ça m'a donné, c'est que si tu sais, comment se joue un jeu Mario en 2D, quand
ça
tu joues
comme ça,
super
ouais.
bien, voilà, ouais,
bien
tu
sûr.
Cours sans t'arrêter et tu peux, enfin, c'est un certain type de jeu, une manière de jouer, mais tu cours sans t'arrêter et tu sautes, tu calcules tes sauts parfaitement et donc tu fais un run à peu près parfait et tu as la joie, le plaisir d'avoir fait ce truc sans t'arrêter en sautant au bon moment. Et j'ai eu l'impression, faudra voir ce que ça donne quand on l'essayera, mais j'ai eu l'impression que ce Super Mario Run là retranscrivait exactement cette impression, et c'est pour ça que pour moi c'est pas juste un petit jeu mobile, ça a l'air de prendre un élément des jeux consoles et de le retranscrire sur mobile, donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce truc.
Écoute, j'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que je le prendrai évidemment parce que j'ai toujours aimé Mario et que j'ai quasiment terminé tous les Mario qui existent. Ouais. Ensuite, à voir si c'est une expérience agréable sur un téléphone portable. J'espère parce que aujourd'hui, jouer sur un téléphone portable, ça reste quand même assez
Y a très peu
limité,
de jeux
disons.
Sont...
Voilà, le choix pour des gens qui sont plus des gamers traditionnels, ça reste quand même assez limité.
Et en plus, il y aura toute une partie où tu peux concevoir tes propres niveaux, les envoyer aux gens, etc. Jouer contre des gens avec des contre leurs fantômes entre guillemets, etc. Je pense qu'il y aura un truc vraiment sympa. Beaucoup de gens n'ont pas compris aussi si c'était un free-to-play ou pas. C'est pas un free-to-play. Et il y a des gens qui disent ah oui, mais si c'est un free-to-play parce que tu peux le télécharger gratuitement et puis acheter ensuite. Non, c'est ça en fait. Le ce qu'on entend par free-to-play, c'est que tu payes jusqu'à la fin des temps parce que t'as pas de moyen d'avoir le jeu en entier. Donc t'achètes de l'énergie, des gemmes, ce genre de conneries. Là, en fait, ça sera. Tu peux télécharger le jeu gratuitement. Effectivement, il est free-to-try entre guillemets. Tu as quelques niveaux, c'est une sorte de démo.
C'est une démo, ouais.
Voilà. Et après, tu peux effectivement, dans le jeu, acheter pour débloquer le jeu complet. Mais c'est un achat, et puis c'est terminé. Donc, c'est pas vraiment un modèle freemium, free-to-play classique, comme on l'entend. Pour moi, c'est vraiment pas un free-to-play du tout. C'est juste un jeu que tu peux acheter, sauf que t'as une démo gratuite. Voilà, ils allaient pas faire deux apps différentes pour avoir une démo d'un côté et puis le jeu de l'autre, évidemment. Et j'ai envoyé un petit sondage sur Twitter pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du prix, quel allait être le prix. Du coup, je vais te poser la question. J'ai dit en dessous de $5, entre $5 et $9.98, on parle en euros aussi, hein, à peu près, $9.99 ou plus de $10.
Ouais, moi, je mise sur un 9,99.
Ah, toi aussi, comme moi. Ouais. Très, très bien.
Bah, je pense qu'il faut, si tu te bases aussi sur ce qui existe sur le marché, tu regardes par exemple tous les Square Enix qui sont sortis, les Final Fantasy 1 à je sais pas combien, il y en a une bonne partie entre 10 et 15 euros. Et je pense que c'est assez représentatif de ce que tu peux attendre pour un jeu complet de qualité avec une expérience type console sur un téléphone portable.
Ouais, non, mais on est d'accord. Et moi, je pense que ça sera effectivement le cas. Les 9,99. Alors, le résultat du sondage, c'était 35% des gens qui disaient en dessous de $5. Je pense qu'ils ont fumé.
Ils sont optimistes, oui. Ouais, ils croient au Père Noël encore.
C'est ça. Un tiers, 33% qui disaient entre 5 et 9,98. 20% qui disent 9,99 et 13% plus de $10. Ça me paraît quand même.
Plus de $10, ça commence à faire cher, ouais. Ouais, pour un runner.
Mais la raison pour laquelle je pense qu'ils peuvent pas aller en dessous de 9,99, c'est que d'une part il y a une armée de gens comme nous qui vont l'acheter quel que soit le prix, ouais. À peu près, hein, plus ou moins. Et le truc c'est qu'ils peuvent baisser le prix ensuite, mais ils peuvent pas l'augmenter. Donc s'ils commencent à 4,99 par exemple, ils peuvent pas ensuite dire tout à coup ah ben maintenant il coûte 9,99 quoi, ou alors ils font une promo sur la première semaine de lancement, un truc du genre, mais même ça j'y crois pas. Ils peuvent le vendre 9,99, ils vont en vendre des tétratonnes, et puis ils peuvent faire une promo ensuite pour le vendre moins cher pour les autres quoi.
Oui, mais de toute façon, ils peuvent faire des promos à Noël ou pour les fêtes. Donc, mais en plus, de toute façon, je pense que il y a un premium Nintendo qu'il faut s'attendre à payer en termes de prix par rapport aux milliards d'apps qui sont bien entre sûr 0 et 4,99. Oui. Donc, de toute façon, à 4,99, hein, si c'est le cas, je l'achète tout de suite sans même essayer la démo, tu vois. Mais c'est impossible que ce soit à 4,99.
Ouais, on est d'accord. Bon, on verra si on aura eu raison. 9,99, c'est le pari du rendez-vous jeu. On parlait de ton ancien employeur tout à l'heure, parlons du mien un petit peu avec la sortie de World of Warcraft Légion, dont on a déjà les premiers chiffres. Et avant, tiens, de parler de ces chiffres, on a parlé de Légion dans l'épisode spécial d'Azeroth.fr qu'on a fait il y a une petite, même pas une dizaine de jours. Tu étais neutre sur l'extension, tu disais ouais c'est sympa, t'avais joué juste quelques jours. Moi j'ai été vraiment séduit, j'ai joué non-stop pendant des jours et des jours. Est-ce que tu as une autre impression aujourd'hui? Ça fait un peu plus d'une semaine, peut-être deux semaines qu'il est sorti.
Oui, que t'en penses? Bien, c'est depuis Votlek, je crois que c'est l'extension que j'ai préférée, donc à
Votlek, c'est Wrath of the Lich King. Hein, voilà, pour les gens qui n'ont pas écouté tous les
Burning
épisodes
Crusade, pour moi, sont quand même un cran au-dessus par rapport à ce qu'elles apportaient à l'époque, évidemment. Et celle-là, à mon avis, vient en troisième, donc devant Cataclysme, Pandaria et Warlords.
D'accord.
Donc plutôt pas mal. Ensuite, bon, évidemment, ça renouvelle pas énormément le système de WoW qui tourne toujours très bien. Je pense pas que j'y jouerai pendant des mois et des mois, mais je me suis bien amusé sur toute la phase de leveling. Et globalement, tu vois, l'extension est plutôt réussie et ça se ressent aussi dans les chiffres de vente, même si c'est souvent le cas de toute façon pour Blizzard et World of Warcraft avec des chiffres dans les premiers jours qui sont hallucinants et ce qu'il faudra voir, c'est comment ils arrivent à tenir sur la durée, en fait, en proposant un contenu de qualité pour essayer de conserver la masse de joueurs qu'ils ont obtenu grâce à l'extension.
Juste une question, t'en es où? T'as atteint le niveau maximum ou pas encore?
Oui, tout à fait, il y a bien longtemps.
D'accord, t'as commencé à faire la dernière zone
oui,
de Suramar,
exactement,
les quêtes mondiales, tout ça, c'est
ouais,
ces systèmes
ouais,
qui sont
ouais,
un peu différents.
Ouais. D'accord. C'est un peu différent, mais ça apporte pas non plus c'est pas l'extase quand tu dis, oh, super, j'ai 15 000 quêtes à faire aujourd'hui, les quêtes mondiales, pour augmenter telle et telle réputation. Donc ça, c'est un peu le retour à la case farming pour améliorer son stuff, etc.
T'es pas obligé de faire toutes les quêtes, tu fais
non.
Les quêtes, les quatre de ton.
Oui, bien
ton...
sûr, bien sûr, ouais. Mais
tu
voilà.
Peux
sinon,
en faire
on,
plus,
on retourne quand même aux systématiques qui sont, traditionnelles. C'est ce que je veux dire.
D'accord. Mais sur Amar justement, c'est une zone
elle
est
chouette,
qui est
super, très bonne
sympa,
zone.
Hein.
Il y a j'avais
Moi
bien
j'étais
aimé,
très
ouais.
sceptique sur l'idée d'une zone niveau max où tu vas jouer presque seulement pour l'histoire, et pourtant j'ai été assez captivé par l'histoire de cette zone et j'ai continué mais
je suis bien d'accord et je pense que pour moi, à l'époque, c'est ce qui avait fait la force de Star Wars The Old Republic, le MMO, qui était très très chouette. C'était un MMO solo. Et j'avais à l'époque, j'avais pris plus de plaisir en fait à faire les quêtes de classe et les quêtes de zone pouvoir découvrir l'histoire plus que par l'élément MMO du jeu. Mmh. Et je trouve que Blizzard a récupéré une partie de cette sensation-là, tout en conservant l'aspect massivement multijoueur de Warcraft, où tu vois finalement des gens, tu peux jouer avec eux, tu peux t'entraider, tu peux te faire des crasses, et ils ont trouvé un équilibre pas mal, voilà, exactement.
D'accord, très bien. Bon, bah effectivement, comme tu le disais, cet enthousiasme critique, parce que c'est vrai que elle a été particulièrement bien reçue, cette extension, a été traduite dans les chiffres. On a eu un communiqué de presse, comme ils en ont le secret. Je me souviens de l'époque où je les traduisais et je coordonnais les communiqués de presse dans toutes les langues moi-même. Et donc, ils ont annoncé 3,3 millions d'extensions vendues en une journée. Enfin, en une journée. Au premier jour, au jour de lancement, ce qui inclut évidemment toutes les précommandes, ce qui rivalise avec les plus gros chiffres d'extensions, de ventes d'extensions du premier jour du passé. C'est-à-dire qu'ils ont fait autant que avec Cataclysm et Warlords of Draenor, qui avaient toutes les deux atteint ce chiffre de 3,3 millions. Je pense qu'il y a différents facteurs qui l'expliquent. D'une part, le fait qu'il y avait encore plus intérêt pour cette extension de l'acheter avant la sortie, parce qu'on pouvait commencer à jouer la nouvelle classe dans le jeu un petit peu en avance, 2 ou 3 semaines en avance. Donc ça a encouragé les gens à acheter au plus tôt. Et puis le fait que les gens, d'une manière générale, de plus en plus sur World of Warcraft, reviennent pour une extension et puis arrêtent de jouer en cours de route. Ils vont jouer pendant 1 mois, 2 mois, et puis ils arrêtent de jouer, ils attendent l'extension suivante. Donc, peut-être qu'ils réussiront à endiguer cette tendance avec cette extension-ci qui a l'air plus riche en contenu, mais il est certain que ça joue aussi pour l'enthousiasme des foules. Mais par contre, là où c'est surprenant, c'est que l'extension précédente, on en a beaucoup parlé, avait une réputation particulièrement négative sur sa durée. Elle avait été trop étirée avec beaucoup trop de temps, et donc l'image de World of Warcraft aurait pu s'en trouver écornée. Mais il semble que les fans sont prêts à essayer avec comme je le disais, le buzz était plutôt bon sur la bêta de l'extension. Les gens avaient l'air de penser qu'elle était bonne, ça a l'air de s'être traduit, et donc les joueurs ont répondu présent, ce qui n'était pas forcément évident. On a le top des ventes en France sur la semaine 35, qui n'était pas une semaine non plus hyper active, mais tout de même, World of Warcraft Légion donc est premier des ventes, et l'édition collector, c'est là que c'est plus surprenant, l'édition collector est deuxième des ventes, au-dessus de Deus Ex Mankind Divided, qui était sorti un petit peu avant, sur PS4, et Yo-Kai Watch sur 3DS, et en cinquième position, Overwatch sur PlayStation 4. Donc, plutôt des bonnes performances pour World of Warcraft et Blizzard dans son ensemble. Un dernier mot sur ce communiqué de presse, sur lequel il faut vraiment lire, pas entre les lignes, mais enfin comprendre ce qu'ils disent. Ils annoncent par exemple que World of Warcraft a atteint les niveaux de concurrency, donc de nombre de joueurs en même temps sur les serveurs, le plus haut depuis le lancement de Cataclysm en 2010. Et certains ont eu l'air de confondre ça avec le nombre d'abonnés. Et c'est pas le cas, évidemment. Le nombre de joueurs, le nombre de joueurs connectés en même temps est évidemment différent du nombre d'abonnés. Mais bon, évidemment, ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire qu'il y avait plein de gens connectés en même temps au moment du lancement. Mais ça veut pas dire qu'on est revenu au nombre d'abonnés, le plus haut, c'est-à-dire en 2010, avec Cataclysm, qui était à 12 millions. On sait qu'ils ne communiquent plus sur ces chiffres-là. Et puis, une dernière note pour signaler que ce chiffre du nombre de ventes du premier jour, des premières 24 heures, de 3,3 millions, est évidemment plus petit que le nombre de joueurs connectés. Et c'est une interrogation que moi j'ai depuis toujours. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent, mais qui n'ont pas la dernière extension. Et je me demande ce qu'ils font, quoi. Mais même si, évidemment, il y a d'autres personnes qui l'achètent après le premier jour, on n'atteint jamais le nombre de joueurs qui le nombre de clients, enfin de joueurs qui payent leur abonnement mensuel. Donc il y a plusieurs millions de joueurs qui jouent à World of Warcraft, mais qui sont pas sur la dernière extension. Alors bien sûr, il y a énormément de contenu, mais ça me surprend toujours un peu, mais ça a toujours été le cas, quoi.
Ils sont peut-être encore coincés sur Vanilla au niveau 52.
C'est possible, oui. On sait pas. Mais en tout cas, ils continuent à payer. Donc,
Tant mieux pour Blizzard.
Tant mieux pour Blizzard. Donc voilà, ce petit chapitre sur World of Warcraft qui continue, je crois, à surprendre. Il y avait vraiment, c'était vraiment le moment où on s'y attendait pas. Là, on se disait, bon, bah, ça y est, ils continuent, ils vont plus atteindre les records des années précédentes. Bah, en tout cas, celui du nombre de ventes premier jour est atteint, ce qui est vraiment surprenant. En parlant de Blizzard et d'Overwatch, la France participe à l'Overwatch World Cup, évidemment. Et on a un camarade qui est le chef d'équipe de la France. Alors, si vous savez pas ce que c'est que l'Overwatch World Cup, c'est un tournoi qui sera organisé. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Ah, ça y est, t'es revenu, je ne t'entendais plus.
Il y avait une perturbation dans la force de Skype. Donc, il y a un tournoi qui est organisé par Blizzard avec des équipes formées par pays. Donc moi, ça me motive particulièrement. Et la finale sera à la BlizzCon. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que le chef d'équipe de France, c'est AlphaCast, qui est un ami qui était venu vous présenter Overwatch il y a quelques mois de ça dans l'épisode spécial qu'on avait fait à ce sujet. Et donc, c'est le chef de l'équipe française. Et ils se sont très bien débrouillés sur les qualifications de cette semaine. Alors j'ai plus le tweet, malheureusement je l'ai perdu, mais ils ont gagné en fait, si voilà, 2-0 contre l'Ukraine, 2-0 contre la Croatie, 2-0 contre le Portugal et 2-1 contre la Norvège. Il y a encore des matchs à gagner avant de pouvoir aller à la BlizzCon, mais gros encouragement à notre équipe de France d'Overwatch sur ce petit tournoi sympathique. Et à son chef d'équipe AlphaCast, évidemment, on lui envoie tous nos encouragements. Encore quelques petites news rapides. On parle, pour finir, sur Blizzard. On a eu des informations sur Rob Pardo. Alors, si vous connaissez pas Rob Pardo, c'était l'un des développeurs clés de la société jusqu'à ce qu'il la quitte il y a quelques années. Et il avait un petit peu disparu et il est réapparu aujourd'hui, enfin il y a 2 jours, avec une nouvelle société qui s'appelle Bonfire. C'est une société qui va faire des jeux vidéo, évidemment. Et d'une part, c'est intéressant de voir Rob Pardo se relancer dans le jeu vidéo, mais surtout il a avec lui différentes personnalités du jeu vidéo, mais notamment Josh Mosquera, qui est la personne qui a développé, qui est venu reprendre Diablo 3 après Diablo 3 Vanilla et qui a, selon tous les joueurs, je pense, ramené un intérêt incroyable à Diablo 3 avec avec l'extension Reaper of Souls. Il avait quitté Blizzard il y a quelques mois de ça, on savait pas très bien pourquoi, maintenant on le comprend. Et il y a aussi Nick Carpenter, qui était le vice-président de Art and Cinematic Development, en gros le vice-président de tout ce qui concernait l'aspect artistique des licences Blizzard, qui est très important comme on le sait. Et donc ces 3 personnes plus d'autres, hein, des gens de Riot etc. qui ont investi, ont formé Bonfire, qui est une société qui va développer des jeux vidéo. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ex-développeurs de Blizzard qui ont essayé de se lancer dans le jeu vidéo, qui ont créé des jeux. On pense évidemment à Bill Roper de Diablo, qui a lancé le désastreux Hellgate London il y a quelques années, malgré les espoirs de tous les fans de Diablo de l'époque. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un truc différent, quoi. Entre Rob Pardo, Josh Mosquera et Nick Carpenter, c'est à surveiller. Je dis pas qu'ils vont faire des merveilles, mais c'est certainement à surveiller. Je sais pas si je suis trop enthousiaste, moi, ou trop des étoiles dans les yeux, mais Dany, ça t'intrigue ?
Écoute, à voir. Je suis moins enthousiaste que toi. Rob Pardo est quand même, c'est un peu une sorte de légende, donc faut voir. C'est encore un peu tôt, à mon avis, pour s'enthousiasmer, mais en tout cas, c'est intéressant et c'est un développement à suivre.
Je dirais pas que je m'enthousiasme, je dirais que je vais surveiller ça de près, mais pas...
D'accord, d'accord. Si, mais si, si. Tu t'enthousiasmes quand même un petit peu. Hein.
Un petit peu, un petit peu. Bah, disons que, tu sais, Josh Mosquera a repris un jeu qui était très bon, mais il l'a rendu... Il a su créer des éléments de gameplay qui l'ont rendu vraiment presque addictif. Et d'ailleurs... Même les éléments de jeu de Warcraft aujourd'hui avec Légion ont énormément hérité de certains éléments de jeu de Diablo 3. Donc il y a eu des features, des fonctionnalités de gameplay qui ont été essentielles et fondatrices dans ce jeu-là. Et Rob Pardo qui était derrière Warcraft 3, World of Warcraft, enfin etc. Moi je pense qu'il a, enfin bon, bref, on en reparlera un jour. Et puis dernière petite news, la GeForce GTX 1050, c'est toi le spécialiste PC, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette machine?
Eh ben écoute,
c'est une rumeur, hein,
c'est
encore,
une mais... très bonne carte à mon avis pour les gens qui n'ont pas forcément le budget de passer sur une configuration en triple Titan X comme ce que moi j'aurais aimé avoir chez moi, mais mais je pense que en général, comme sur toutes les cartes graphiques, le rapport performance-prix, plus on va vers le milieu de gamme, sera vraiment intéressant. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas les moyens de monter sur une 1060, la 1050 va être un bon compromis et se positionner face à face à des cartes avec, enfin, AMD, avec des prix relativement agressifs et une performance qui sera au moins équivalente, voire probablement mieux. À voir ensuite selon les tests. Mais effectivement, je pense que le renouvellement des cartes, disons entre 100 et 200 euros, se faisait attendre. Et maintenant, c'est une bonne chose.
Ouais, on a la 1060 qui est autour des 225-250 euros. Et la 1050 devrait être plutôt en dessous des 200, peut-être même taquiner les 150, qui est le prix de la GTX 950, avec des performances à peu près équivalentes, un petit peu élevées, un petit peu plus élevées.
Je sais pas si ça sera... à nouveau.
Ah mais décidément, c'est ta connexion gigabit qui ne tient pas la route. Non.
J'étais perdu pendant 2 secondes, donc j'ai pas entendu la moitié de ta dernière phrase. C'est bizarre.
Bon, bah écoute, c'est pas grave. Ouais. J'étais en train de me moquer de ta connexion. Donc
ah, elle est toute petite et pourtant c'est 1 gigabit, mais avec un temps de latence monstrueux.
Bon, enfin, écoute, en tout cas, on était en train d'arriver à la fin à peu près de l'émission. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer, mais je crois qu'on a couvert à peu près tout.
Oui, je pense qu'on a fait le tour des news de la semaine.
Très bien. Eh ben, écoute, donc après cette longue, longue discussion sur la PlayStation qui n'a rien résolu et des discussions intéressantes sur le reste, je te propose de nous dire où on peut te retrouver si tu n'es pas dans le rendez-vous jeu ou dans Azeroth.fr.
Eh ben, je suis sur Twitter @notdanny.
Excellent pseudonyme.
Oui, évidemment. Comme toute la série des notes. Donc, nos fans de la première heure. On les remercie d'ailleurs.
Exactement. Donc, merci Dany. Merci d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. On a évoqué un petit peu l'iPhone 7 et on va pas reparler de tout l'iPhone 7 parce qu'on en avait déjà beaucoup parlé avec les rumeurs, mais on évoquera peut-être un petit peu plus longuement l'absence de port jack dans le prochain épisode du rendez-vous jeu. Donc si vous voulez la réponse définitive et certaine sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas, vous pouvez écouter le rendez-vous tech à venir. Moi j'ai une opinion très très claire et simple là-dessus. Donc voilà, vous pourrez découvrir ça. Et puis sinon, il y a d'autres émissions, vous le savez. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait d'énormes bises et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous jeu.
Ciao, à très bientôt. Bye bye.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.